OK, donc Matthieu, on est au chapitre 9, versets 18 à 34. Et vraiment, c'est des chapitres de miracles. Hein? Chapitres 8 et 9, beaucoup de miracles. Et Jésus ne faisait rien sans poursuivre un but précis. Vous rappelez-vous la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que Jésus enseignait par ses miracles? On a la réponse au verset 13. Quand il dit « Allez, apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », il s'adressait aux leaders d'Israël, ici en citant Osée 6:6. Et là, c'est des miracles qui enseignaient la miséricorde à ces gens qui dirigeaient Israël, qui « Oh, tu es avec des gens de mauvaise vie, des pécheurs, des publicains. » Mais Jésus enseignait à travers ces miracles la miséricorde. Là, dans les versets qu'on lit, on va voir que Jésus enseignait d'autres choses à d'autres personnes. C'est sûr que sûrement il y avait des pharisiens, en fait, on va le voir, qui écoutaient puis qui avaient quelque chose à apprendre, mais vous allez voir, il y a un changement avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on lit au verset 18, « Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison, la maison du chef, ça c'est Jairus, on apprend ailleurs, qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Quand la foule lui était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit se répandit dans toute la contrée. Verset 27, « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée, dans tout le pays. Verset 32, « Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule, étonnée, disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Dans ce qu'on vient de lire, on voit Jésus qui enseigne encore quelque chose. Si la semaine passée, il s'adresse directement au leadership d'Israël puis dit « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », il s'adressait au leadership d'Israël avec Osée 6:6, comme je l'ai dit, parce que ces gens-là étaient pris dans une religion externaliste de juste faire des choses, mais ils passaient complètement à côté de Jésus, de leur Messie. Mais dans les versets qu'on vient de lire, Jésus les pointe certainement à la miséricorde. Rappelez-vous, c'est quoi le mot pour miséricorde? Miséricardia. Puis on pourrait dire, ça vient de misère et de cœur, mais l'idée c'est je ressens ta misère dans mon cœur. C'est ça l'idée de la miséricorde, OK? D'une façon, mais aussi c'est l'idée de quand tu ressens ça, l'action c'est d'aller délivrer la personne de cette condition misérable parce que je sens ta misère, je te délivre de ta misère. C'est ça la miséricorde de Dieu, hein? Voyant notre misère, il nous délivre de sa misère. C'est plus que juste un sentiment, c'est aussi ça mène à une action. Et donc, certainement qu'on voit, dans ce qu'on vient de lire, on voit de la miséricorde. Mais il y a un changement ici d'auditoire. Où est-ce que... Bon, on sait que les pharisiens étaient là, ils écoutaient, mais Jésus, vraiment ici, s'adresse plus à la foule. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui écoutent, puis... OK? Et si enseigner la miséricorde au leadership, comme on a vu la semaine passée, il enseignait la foi à cette foule. Il pointait à lui-même en disant que c'est lui qui est l'objet de la foi. Donc, c'est des miracles. La semaine passée, on a vu des miracles qui enseignent la miséricorde, cette semaine, des miracles qui enseignent la foi. OK? Parce qu'il voulait amener les gens à mettre leur confiance en lui, comme étant le Messie, celui qui guérit, celui qui... OK? C'est ça ici l'idée de ce qu'on va considérer ce soir. Parce que dans les miracles qu'on vient de voir, qu'on vient de lire, tout ce qu'il fait pointe à lui-même. Pas parce qu'il était égocentrique et qu'il voulait donner un show, mais ça pointait à lui de façon rédemptive, en disant « c'est moi le rédempteur, c'est moi qui libère, c'est moi votre espoir. » OK? Et c'est parce que Dieu voulait susciter la foi, non seulement dans la délivrance physique, mais aussi dans la délivrance spirituelle. « Je suis celui qui est venu. Je suis l'espérance d'Israël, celui qui est venu pour vous délivrer. » Et vous savez, c'est encore vrai aujourd'hui. Quand on prêche Christ, qu'on l'élève, c'est l'espoir de ce monde. On suscite la foi. Quand on parle de nous-mêmes, on ne suscite pas grand-chose. Mais quand on parle de Jésus-Christ, quand on élève le Fils de l'homme, on amène les gens à la foi qui sauve. On amène les gens à considérer ce qui est le plus important. OK? Si je parle de moi-même, je pointe à moi-même, ça va faire l'inverse. Au lieu d'amener la délivrance, ça va pas amener rien de bon. Mais quand j'élève Christ et sa vie, son message, oh là, ça fait quelque chose. Et j'avoue, les deux sont inversement proportionnels. Plus je mets Dieu de l'avant dans ma vie, plus je vais être à l'arrière-plan. Et plus je me mets de l'avant, plus Dieu va être à l'arrière-plan. Un peu comme Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais si je crois, il va diminuer dans ma vie. OK? Et ici, Jésus, c'est ce qu'il fait. Il se met lui de l'avant. Puis lui, il peut le faire légitimement parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Rédempteur. Et donc, c'est ce qu'il fait dans les miracles qu'on vient de lire là. Et les gens comme ça qui guérissent sont non seulement témoins de sa puissance, mais aussi ils apprennent la puissance de la foi. Lorsqu'on se confie en Christ, ils voient le résultat que ça donne. Alors, je vais vous donner maintenant juste une couple d'observations par rapport à ce qu'on vient de lire. Il y a quatre personnes qui jouissent dans le miracle de Jésus dans ce qu'on vient de lire. Elles sont très différentes, OK? De différents arrière-plans, des caractères différents, mais ils ont aussi des caractéristiques communes. D'abord avec les différences. Jairus, qu'on voit au début, il n'est pas nommé ici, il est nommé ailleurs. Un chef de la synagogue riche, OK? Il vient pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre, pour sa fille. OK? Sa méthode, c'est quoi? Il fait simplement demander à Jésus de la toucher. OK? Juste, va voir ma fille, puis tu vas pouvoir... Ben, juste la toucher, ça va faire une différence. La deuxième personne qu'on rencontre, c'est en chemin vers la maison de Jairus, c'est cette femme qui a une perte de sang. Elle est rejetée par la société, rejetée par la religion, puis peut-être même divorcée, parce qu'une femme comme ça était rituellement impure, puis bon, pour plusieurs raisons, elle était au banc de la société. Sa méthode à elle, elle se ferait un chemin pour elle-même pouvoir toucher à Jésus, croyant que ça va faire la différence, et ça fait la différence. Ensuite, on a nos deux aveugles, qui sur le chemin, eux autres aussi étaient mis de côté, puis rejetés. On va rentrer plus dans les détails de tout ça tantôt, là, mais juste pour sortir certains points. Les gens ne voulaient pas les entendre, voulaient les faire taire parce qu'ils dérangeaient. Leur méthode, c'est quoi? C'est d'être encore plus bruyant que ceux qui voulaient les faire taire pour se faire connaître à Jésus. OK? C'est l'expression de leur foi. Et finalement, on voit un muet qui, lui, à cause de sa condition démoniaque, n'est même pas conscient de son problème, ne va même pas lui-même à Jésus. C'est des gens qui l'amènent à Jésus. OK? Il est conduit par d'autres. Donc, ce n'est pas sa méthode, c'est la méthode de d'autres qui l'aiment, qui suscitent lui, puis qui le présentent à Jésus. Donc, vous voyez, c'est pas mal tout différent. Il y a pas mal de choses. Mais, voici ce qui est en commun. Ces quatre, dans les quatre cas ici, leurs besoins sont tous comblés. Que ce soit la mort, comme la fille de Jairus, la maladie, l'oppression démoniaque, possession démoniaque, ont complètement tous été vaincus par la puissance surnaturelle de Jésus-Christ. Ils ont tous été comblés. Pourquoi? Parce que Matthieu nous présente Jésus comme le conquérant. Il arrivait juste touché, pouf, c'était réglé. Okay? S'il a fallu que Jésus ait de la misère, puis qu'il fasse ci, puis ça, puis faire des simagrées, non, juste touché, boum, c'est réglé. Donc, on voit vraiment ici la toute-puissance de Jésus-Christ. Et encore plus que ça, c'est remarquable de noter que dans toutes ces instances, Jésus-Christ était immédiatement disposé à répondre à leurs besoins. Il n'a pas fallu qu'il torde un bras puis qu'il essaie de faire des choses pour essayer de le convaincre. Non! Même la femme, hein, c'était, puis on apprend dans un autre évangile que Jésus s'est retourné puis il dit, j'ai senti une puissance qui est sortie de moi puis tout ça. Parce qu'il poursuivait aussi un but avec ça, on va revenir là-dessus tantôt, mais non, Jésus était disposé à répondre à leurs besoins. Et c'est ce que Jésus enseignait. Je suis digne de votre foi. Jésus-Christ, avec ses miracles-là, enseignait, regardez, si vous venez à moi, vous n'allez pas être déçus. Je suis digne de votre foi. Pour ça, je dis, c'est des miracles qui enseignent la foi. Une dernière chose en introduction, toujours. Évidemment, Jésus n'a pas juste répondu à leurs besoins physiques, mais même leurs besoins spirituels. Cette femme avec une perte de sang, par exemple, il dit, ta foi t'a guéri. Puis on apprend plus tard que Jésus l'a un peu mis sur le spot, là, tu sais, justement, il dit, ah, j'ai senti une force qui s'appelle, pour comme que les gens la regardent. Pourquoi? Parce qu'il voulait l'embarrasser, puis non, parce qu'il lui enseignait la foi, puis lui, il voulait la relever aux yeux de tous, elle qui était vue comme impure, mis de côté. Jésus relevait sa dignité, puis il disait, voici, je me suis occupé d'elle, elle n'est plus dans cette honte. Et dans Jésus a non seulement enlevé son problème physique, mais son problème social, spirituel, il l'a relevé aux yeux de tous et dit, elle n'est plus impure comme elle était avant. Jésus vraiment s'occupait de tout. Et Jésus agit toujours dans nos vies encore pour combler tous nos besoins. On n'a pas besoin d'y tordre un bras. C'est vous, c'est ce qui est merveilleux avec notre Dieu. Il est disposé. Il est disposé. C'est ce que ça nous dit dans la Bible à maintes reprises de différentes façons. On peut se décharger sur lui de tous nos soucis parce que lui-même prend soin de vous. Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. On peut aller à lui tout le temps. Il est toujours disposé. Et notre plus grand besoin, nous aussi, c'est la foi. Hein? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Oh, il y a des heures de ténèbres qui s'en viennent pour vous, mes amis. Hein? C'était l'heure des ténèbres. Hein? Jésus a été sur la croix et tout ça. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? J'ai prié pour une chose. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Pour vous, afin que votre foi, excusez, pas juste pour lui, pour tous les autres. Il a prié pour leur foi. Et donc, on a à apprendre ici de Jésus, parce que nous aussi, on veut que Jésus nous enseigne la foi, la confiance en lui, voir qu'avec lui, on a tout ce dont on a besoin, puis on peut aller à lui avec toutes nos choses. Mais ce que j'aimerais qu'on voit, et c'est ce que ça va être le sujet de notre message, chacun a eu à surmonter des obstacles. Il y avait des obstacles parce que la foi, c'est faire confiance malgré. La foi, c'est faire confiance malgré des choses qui peuvent être, des fois, ça peut être nos raisonnements, ça peut, OK. Ben, on va voir ici comment ces gens-là ont exprimé leur foi face à des obstacles qui se dressaient devant eux. Donc, on va regarder trois obstacles que la foi écarte. D'abord, l'obstacle social. Dans les deux premiers miracles, en fait, dans les versets 18 à 26, ces deux miracles, la fille de Jairus, puis la femme avec une perte de sang. D'abord, si on prend, parce que c'est la première qui se fait guérir miraculeusement, cette femme avec une perte de sang, je l'ai dit tantôt, elle était mise au banc de la société parce qu'elle était en état permanent, vous allez voir dans Lévitique, elle était en état permanent d'impureté rituelle. OK? Elle ne peut pas aller au temple, ne peut pas aller à la synagogue. Comme j'ai dit, probablement, ça se pouvait qu'elle soit mariée, parce que le mari dit, ah, ben là, t'es... ça aurait été vraiment de coutume à l'époque, puis... divorcée, c'est ce que j'ai dit, mariée. Ouais, non, c'est divorcée, ça je veux dire. Puis en plus, tout le monde l'évitait. Si elle se promenait, là, c'était pas, hey, comment ça va, toi? Non, non, un peu comme une lépreuse. OK? Donc, c'était pas une condition de vie très agréable. Elle était exclue, puis même par sa famille aussi. Non seulement socialement, mais par les gens plus proches d'elle. Jairus, lui, c'est bien différent. Il n'y avait pas toute cette misère-là, mais remarquez au verset 24. Parce que j'ai dit, les deux, il y avait un obstacle social à surmonter. Cette femme-là, elle était la honte, elle était le rejet de la société. Mais regardez pour Jairus, ça dit au verset 24, Il leur dit, ici c'est Jésus qui parle, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et qu'est-ce que ça dit ensuite? Ils se moquaient de lui. Ces gens-là, vous savez comment ça se passait? C'est eux, le Moyen-Orient, ça reste encore de même. Okay? Je ne suis pas allé au Moyen-Orient, mais les funérailles, là, c'est toute qu'une affaire. Rah, ça pleure, puis tu sais, c'est pas comme. Tu sais, nous ici, là, on va au salon funéraire, c'est tranquille, ça ne part pas. Mais là, au Moyen-Orient, là, ça crie, là, tu sais. Puis il y avait même des gens qui étaient engagés pour ça, là, des pleureuses professionnelles. Puis ah, puis là, ils nommaient la personne, puis les gens de la famille, puis avec des prières à Dieu, puis. Ah, c'était tout qu'un spectacle. On disait, écoute, donc, calmez-vous, tu sais. Mais c'était ça. C'était la coutume de l'époque. Et donc, ils ont passé de ça, supposément, tu sais, parce que le soutien à la famille, tu sais, à se moquer de Jésus. Et c'était ça l'obstacle pour Jairus. C'est les gens autour, c'est l'incrédulité des gens autour. Vous savez quoi, Jésus, il dit, retirez-vous. Il y a des personnes dans notre cercle social qui empêche à Dieu de faire ce qu'il veut faire tant qu'il reste dans leur incrédulité, parce que l'incrédulité chasse la foi. C'est un obstacle. OK? Donc, l'obstacle social, ça nous rappelle qu'on doit faire confiance à Dieu, à Jésus-Christ, des fois envers et contre tous. Et ainsi contrecarrer la pensée du monde, de la fausse religion ou de la sous-culture chrétienne. Qui des fois est bien incrédule, mes amis. Par exemple, je pense même en ce moment, vous vous rappelez, je l'ai dit dans les derniers messages, notre ennemi, là, c'est invisible, c'est l'esprit de peur, de manque de foi, de se recroqueviller sur nous-mêmes, puis dire, au secours, qu'est-ce qui va arriver? Non! C'est... Notre situation, il faut qu'on voit comme dans le livre des Actes. Ils ne se sont pas repliés sur eux-mêmes, puis être dans un petit coin, puis dire « Seigneur, reviens bientôt ». Non, ils croyaient que Dieu permettait les choses. Ils ont dit « Mais n'est-ce pas ce qui arrive selon le psaume 2? Les rois de la terre se liguent contre l'Éternel et contre son oint. » C'est normal, on s'attendait à ça. Ils disent « Ouais, ouais, Ponce Pilate, c'est ligué. » On sait, c'était deux ennemis qui sont devenus des amis, Hérode et Ponce Pilate. OK, c'est normal maintenant, Dieu donne-nous le courage d'être debout. Puis d'avancer. C'est ça notre ennemi, mes amis. C'est la peur, c'est laisser le terrain à Satan. De le laisser nous diviser, de le laisser faire toutes des affaires qui vont empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Pensez-vous que l'œuvre de Dieu, en 2020, Dieu dit, ah, mais moi, en 2020, je vais prendre congé, puis mon église, pour aller à la plage en vacances, puis je vais plus prêcher Jésus-Christ. Puis... Non! Au contraire! C'est un rendez-vous, c'est Dieu qui nous réveille, qui dit « Hey, l'heure est grave, c'est le temps de vous lever et de faire connaître mon message de délivrance. » C'est ça notre vrai ennemi. Maintenant, puis je pense que c'est un obstacle social, parce qu'essayer d'ouvrir la bouche pour Jésus-Christ de nos jours, vous savez que dernièrement aux États-Unis, ils ont brûlé des bibles. Hey, la dernière fois qu'on a vu ça, je pense, c'est quand la dernière fois qu'on a vu des gens brûler, bon, à part peut-être dans les pays musulmans, on déplace de même, là, mais en Occident, brûler des bibles, mettons que les sentiments antichrétiens, bon, mais savez-vous quoi, l'amour de Christ ne se lasse pas. Puis Christ encore appelle les gens à lui. Et je le disais ce matin, on est sa bouche, on est ses bras tendus, on est ses pieds qui vont vers ceux qui sont en détresse. Et donc, tout ça nous rappelle que on est appelés à vivre, à répondre à ce qui nous arrive de façon puissante et unique en surmontant l'obstacle social par la foi. Mais pour ça, il faut voir au-delà parce que, vous savez, il faut voir au-delà de ce qu'on voit avec l'œil, puis il faut croire au-delà de ce que le monde croit. Le monde, qu'est-ce qu'il croit? Il y a juste la vie ici-bas. Il faut que je protège ma vie. Savez-vous qu'est-ce que ça nous dit, ça, dans Hébreux? Ça dit que le monde qui ne voit que ça sont esclaves. Ça dit que Satan, qui est le prince de ce monde, dans Hébreux 2, ça nous dit que le monde est esclave et retenu dans la servitude par crainte de la mort. Et ça, c'est un obstacle. Vous savez quoi? Moi, j'ai déjà eu des bonnes occasions. Je me rappelle, au Jardin mobile, à un moment donné, il y a un gars, quelqu'un était mort. Puis là, le gars, il dit, j'ai peur de la mort. Puis il s'est mis à pleurer. Puis il parlait. J'ai pu dire, ben, mon ami, tu fais bien d'avoir peur de la mort. Parce que si t'es pas prêt, c'est terrible. Mais j'ai quelque chose à te partager. Puis j'ai pu dire, celui qui vainque la mort, puis celui, il n'a pas été sauvé. En tout cas, pas à ce que je cherche. Maintenant, ça fait des éternités que je ne l'ai pas vu, là. C'est Michael, un collègue de travail du Jardin mobile. Mais justement, le monde a peur de la mort, mais nous, on n'a pas peur de la mort. Puis c'est une occasion de dire, « Hey, moi, je connais celui qui est la résurrection et la vie. Puis savez-vous quoi? Si je meurs, je ne vais même pas voir la mort. Mon corps va... Ça va être fini pour mon corps, mais je vais aller directement dans la présence de Dieu. » Mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire à partager en ce moment. Fait que l'obstacle social qu'on peut avoir, Jésus le pulvérise complètement. Il faut juste qu'on lui fasse confiance qu'il est capable de le faire. Jésus nous enseigne des miracles qui enseignent la foi, qui peuvent surmonter l'obstacle social qu'on a en ce moment pour se confier en Christ, lui faire confiance. Non seulement il y a cet obstacle-là social avec les deux miracles des versets 19 à 26, mais avec le troisième miracle, les aveugles, il y a l'obstacle religieux. Et on l'a lu, hein, c'est deux aveugles qui vont à Jésus, puis tout ça, puis font connaître leurs besoins. Et cet incident en a un similaire plus loin, parce que Jésus a guéri souvent des aveugles, là, c'est pas la seule fois. Mais dans Matthieu 20, il y en a un autre, c'est un autre événement qui est similaire, mais distinct. Je veux dire, guérir un aveugle, tu sais, je veux dire, on dit, ah, ça se ressemble, vous voyez, mais... Parce qu'il ne voyait pas, puis là, il voit. T'sais, c'est comme, c'est assez simple, là, mais... Mais dans les deux cas, il y a quelque chose. Ici, on ne le voit pas explicitement, mais dans Matthieu 20, on voit que les gens voulaient les faire taire. Puis ici, c'est probablement c'était impliqué parce qu'ils criaient. Les gens disaient, hey, calme-toi, là, tu sais. Puis ça nous dit spécifiquement au chapitre 20, « Ah, arrêtez! » C'est quoi leur réaction? Ils font le contraire. Ils se mettent à crier encore plus fort. Et pour ça que je parle, même si ce n'est pas spécifié dans notre texte, je pense qu'il y avait le même genre de situation ici. Et il faut comprendre. Ce qui les faisait taire, c'était toute la pensée religieuse de l'époque. Parce que la pensée de l'époque sur les malades, les lépreux, les pauvres, OK? C'est des gens punis de Dieu. Quand tu es riche et en santé, Dieu t'a béni. Ah, comme notre père Abraham, tu vois, Dieu l'avait béni. C'était la pensée de l'époque. Quand tu es riche, puis que tu es en santé, c'est parce que tu es béni. Si tu ne l'es pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est un peu comme avec les amis de Job, si vous voulez. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Okay? C'était ça la pensée. Fait que les gens ne voulaient pas entendre des gens comme des aveugles. Les muets, ils n'entendaient pas, là. Mais des lépreux, des personnes comme ça. Ils étaient vus comme des punis, des maudits de Dieu. T'sais, religieusement, là, c'était comme, il y avait pas... Il était dans le plus bas de les considérations spirituelles des gens de l'époque. Personne ne voulait avoir affaire avec ce genre de personnes-là, autrement dit. OK? Puis, il y a toujours des voix d'incrédulité qui voudraient faire... taire le cri de notre foi, parce que ces gars-là qui crient, là, c'est le cri de la foi. Ils croyaient que Jésus pouvait faire de quoi? Ben, je leur dis, je peux-tu faire de quoi pour vous autres? Absolument. Ils croyaient, c'était le cri de la foi. Savez-vous quoi? Je vais amener un point important. La religiosité de notre nature humaine, souvent, c'est un grand obstacle à notre foi. Dans nos églises, souvent, là, la pensée politico-chrétienne correcte, la sanctification par les hommes, ben là, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas... C'est quoi des gens dans l'histoire de l'Église qui ont changé des choses? Souvent, c'est des gens de leur propre Église ou des autres Églises qui les empêchaient. Un William Wilberforce, un Spurgeon, des gens disaient « Oh, wow, c'est donc extraordinaire ce qu'on fait. » Il y avait bien du monde contre eux autres. William Carey, un des missionnaires des temps modernes, des gens disaient « Ah, oh, si Dieu veut sauver les gens en Inde, il va bien s'organiser avec ça. » Lui, il avait affaire avec des hyper-calvinistes, là. Mais c'était des gens « Non! » Voyons, il y a plus que ça. Ils ont surmonté l'obstacle religieux. Et savez-vous quoi? Nous aussi, on en a un obstacle religieux à l'époque actuelle où est-ce qu'on vit. Vous savez, les crises font ressortir la réalité des choses. Et nous vivons une crise qui fait ressortir, qui révèle la réalité de ce qui pouvait être caché auparavant, mais ça ressort. Et tant du côté négatif que positif. Comme par exemple, le courage, le leadership spirituel de certains. On a été encouragés avec certains qui ont dit « Non, on va pas, on va se soumettre à Jésus-Christ et non à César. » Ça nous encourage à arriver. « Wow, je savais pas qu'il était courageux de même. » Mais c'est vrai de l'autre côté aussi. Où est-ce qu'on voit que... Puis malheureusement, en tout cas, je parle ici au Canada, la majorité des églises dont je suis témoin, c'est au contraire. Tout le monde est dans son petit coin, puis on va pas déranger, puis on va... vous dis, c'était ce groupe d'échanges d'emails de pasteurs, ça m'a plus découragé que d'autres choses ces derniers temps, parce que c'est comme si... soit le statu quo, ou... Puis Jeff Friesen, ceux qui connaissent le Camp Forest Glen Bible Camp, sur ce forum-là, il a partagé, il dit, les gars, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec John MacArthur, mais il a partagé le message de dimanche passé, puis il dit, c'est le temps que les Canadiens, on se rend compte, wow, là, que nous autres aussi, peut-être que Dieu veut qu'on se tienne, puis que... C'est drôle, hein, des fois, il y a des gens qui écrivent des affaires que c'est pas très important, puis là, ça l'écrit à gauche, puis là, il y a zéro personne qui a répondu. Ça, c'est l'obstacle religieux. C'est comme si... Il est où le courage? C'est là que c'est le temps d'être l'Église de Jésus-Christ comme leader, d'être un homme de Dieu, puis dire, OK, l'Église de Jésus-Christ n'est pas morte. Wow! Et je crois que cette fameuse crise nous révèle la grandeur de l'obstacle religieux. Vous savez, c'est facile de faire l'Église, puis tout ça, mais quand c'est temps d'être courageux, puis d'avoir des convictions, puis que c'est vrai la vie chrétienne, là, c'est là que ça se passe, là. Puis j'ai une nouvelle admiration pour certaines personnes comme... Il y a un pasteur qui se démarque dans cette liste-là, il vient de Peterborough, en Ontario, puis tout le long, puis pas pour être arrogant, puis... Mais il a dit, « Hey, nous autres, on veut pas se faire embarquer dans cette affaire-là, on continue à prêcher Christ, on continue à inviter les gens à l'Église, puis... Il a tenu le flambeau tout le long. Puis quelqu'un qui a dit, frère, j'admire ton courage. C'en est un. T'sais, j'espère, puis je pense qu'il y en a d'autres, peut-être que j'ose. On n'entend juste pas parler, là. Mais il y a 300 personnes sur cette liste-là, là. Ils sont où toutes les autres? Mes amis, on a un obstacle religieux à surmonter. Et je pense que l'obstacle le plus grand, c'est la peur. La peur de l'homme. La peur de ce qui va arriver, puis, OK, l'instinct d'autoprotection, puis une espèce de pression sociale entre l'Église, de la politique chrétienne, qui empêche d'être courageux, puis de dire, « Ah, hey, mais là, va pas à l'extrême, puis... » C'est plus facile de se conformer, puis de rien dire. Autrement dit, est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on fait confiance à Dieu? C'est pour ça que je dis, comme Église, on n'a pas à avoir honte, puis dire, « OK, on va honorer notre Seigneur, parce que tout le monde est donc préoccupé, puis on veut obéir au gouvernement, mais est-ce qu'on est préoccupé d'obéir à Jésus-Christ, le chef de l'Église, puis de dire, l'Église, il faut qu'on se lève, puis qu'on fasse entendre qu'on a un message dont on n'a pas honte, qu'on a un message qui transforme le monde, puis qui est l'espoir de ce monde. C'est ça que je veux dire par le fait que, c'est qui fait entendre ça haut et fort, puis qui dit Jésus-Christ est Seigneur? C'est ça que je veux dire par l'obstacle religieux, puis... Il faut qu'on surmonte ça par la foi. Puis, c'est quoi? Dieu va s'occuper de nous autres. J'ai déjà pensé, puis, ah, là, on fait-tu ci, puis ça, puis y a-tu quelqu'un qui va venir? Si on vit de même, mes amis, on va rester tous chez nous, pour on a tous besoin de fermer l'église, puis de dire, priez pour nous, parce que notre Dieu, il n'est pas très puissant. C'est ça le message qu'on donne. Mais regardez le livre des Actes, là. Il n'y a rien qui les arrêtait parce que Dieu était avec eux. Puis, il n'y a rien qui arrête Dieu. Puis, c'est pour ça. On a-tu le Dieu du livre des Actes où lui aussi est parti en vacances? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ est en vacances puis le Dieu du livre des Actes est en vacances? Non, mes amis. Faut qu'on croie ça. Je pense beaucoup ces derniers temps à cette phrase dans le livre d'Esther. Est-ce que Dieu ne t'a pas mis là pour un temps comme celui-ci, for such a time as this? Est-ce que c'est un hasard que nous on est sauvés à cette époque-ci? C'est pas un hasard. Dieu nous a placés en ce moment sur la terre, puis c'est notre tour. Il faut qu'on fasse confiance à Dieu avec ce qui. Fait que mes amis, N'ayons pas honte de Jésus-Christ. N'ayons pas honte de son message, de se tenir pour lui, puis on est son Église. Puis il faut qu'on se tienne les uns les autres ensemble plus que jamais. Prions pour l'unité de l'Église. Prions que Satan puisse pas, qu'on puisse pas y donner de l'accès. Puis là-dessus, j'en ai un point important. C'est pas dans mes notes, mais qu'on apprenne à prier au nom de Jésus-Christ, dans l'autorité de Jésus-Christ. Puis là-dessus, si vous voulez un bon message, si vous connaissez The Pineapple Story, l'histoire de l'ananas, OK, par, c'est quoi le nom du gars, donc? C'est un missionnaire dans Papouasie-Nouvelle-Guinée, là. En tout cas, puis il est drôle en plus. Mais il a fait l'histoire de l'ananas, puis il a fait l'histoire du serpent. Puis l'histoire du serpent, ce gars-là allait vers des gens animistes, possédés du démon, je veux dire un village au complet, littéralement possédé du démon. Des affaires que vous ne croiriez pas, il s'en va prêcher l'Évangile. Il y a des manifestations démoniaques à tout casser. Mes amis, c'était quelque chose. Puis finalement, il s'est rendu compte, « Hey, Jésus-Christ a l'autorité sur le monde des... » Puis il s'est mis à prier au nom de Jésus. Tu sais, pas juste pour répéter au nom de Jésus, mais à comprendre que c'est dans l'autorité de Jésus, ça l'a tout changé. Le village s'est converti. C'est ça l'autorité du nom. Écoutez l'histoire, ça vaut la peine. The Snake Story. Okay. C'est quoi le nom du gars, non?
Otto.
Otto. Otto quelque chose. Otto. O-T-T-O, c'est un Dutch. C'est un... hein? Hollandais. C'est un Hollandais. C'est vraiment... C'est bon. Puis dans le fond, ça l'illustre. Parce qu'il dit... Puis, ah, parce que le gars, il présente, dans le fond, il amène son message, je pense qu'il est en Amérique, là. Hein. Puis il dit, « Enseignez à vos gens à prier au nom de Jésus. Passez pas à côté du nom de Jésus. » C'est dans le monde des ténèbres, dans l'actualité en ce moment, le nom de Jésus, c'est ce qui fait toute la différence. Au nom de Jésus, tout genou fléchi. Vous avez de la misère, vous êtes découragé. Invoquez le nom de Jésus sur cette puissance de découragement, de peur. Ça va partir. Je vous dis, dernièrement, j'ai eu des moments que j'ai trouvé ça dur, des affaires, puis là, Seigneur, t'es au-dessus de tout ça, puis en ton nom, je te demande de chasser ces pensées-là, de chasser ces choses. Puis Dieu le fait. Je ne suis pas victime des circonstances. Dieu est conquérant de ces choses-là parce qu'il a l'autorité dans tous les domaines. Puis dans le domaine spirituel, mes amis, le nom de Jésus, tout genou fléchi, plus que vainqueur. On apprenne ces choses-là. Pour ne pas être victime de cet aspect religieux, de cet obstacle religieux. Mes amis, le nom de Jésus, c'est l'autorité pour vaincre cette peur-là, cette crainte-là, de cette politique chrétienne. C'est ces choses-là qui bloquent l'œuvre de Christ. On ne veut pas être politically correct, puis on veut pas... Puis, c'est, je veux dire, les crises révèlent qu'il y en a qui seront peut-être plus autant de nos amis qu'on pensait, puis on ne veut pas être méchant avec personne, mais on veut honorer notre Dieu. Puis ceux qui embarquent, ils embarquent, puis on avance. Comprenez-vous? J'espère que j'ai bien transmis ce que je voulais dire. Là, je ne veux pas comme faire dire, ah, les autres qui s'organisent, mais ce qu'on a vu ici, il a dit, ben là, l'autre, il faut que tu les retires, retirez-vous. Je veux dire, on ne peut pas se ranger du bord de ceux qui ont la voix de l'incrédulité en même temps si on veut avancer puis conquérir par la foi. Il faut qu'on choisisse. Comme Moïse a dit dans Nombre, who is on the Lord's side? C'est qui est avec l'Éternel? Rappelez-vous avec la plaie, là. Décidez-vous, là, c'est comme... Finalement, l'obstacle spirituel. Et ça m'amène au dernier des miracles avec ce muet. Il n'y a pas grand-chose qui est dit, c'est un court miracle, juste quelques versets. Et ce muet est dépourvu, il est incapable spirituellement au point qu'il ne peut même pas demander à Jésus de l'aide. C'est d'autres qui l'amènent. Mais, ces gens-là avaient de la miséricorde pour lui. Évidemment, Jésus en a eu, mais il y a des gens qui l'ont vu et ont dit, hey, si je l'amène à Jésus, Jésus va faire la différence. Est-ce que la miséricorde de Dieu dans ton cœur te fait sentir la misère des autres? C'est ça l'œuvre, l'amour de Christ répandu dans nos cœurs. Où est-ce qu'on a un souci, puis les autres, on ressent leur misère. Puis comme j'ai dit, on ne peut pas juste rester là, ça nous amène à faire de quoi pour les délivrer de leur situation misérable. C'est pas nous qui délivrent, c'est Dieu. Voici comment ça se passe. Est-ce que tu sens la misère dans leur cœur au point où tu les présentes à Jésus et où tu leur présentes Jésus à eux autres? Il y en a un, c'est dans la prière, tu les présentes à Jésus, puis après ça, tu peux à eux autres leur présenter Jésus. Mes amis, c'est ça que la miséricorde fait. C'est l'obstacle spirituel qu'on doit vaincre aussi en ce moment. Il y a un monde qui périt, qui est sans espoir, puis c'est nous qui avons le message d'espoir. C'est nous qui avons la vérité qui a franchi. Et il y a deux grands obstacles spirituels à ça. L'indifférence. Savez-vous ce qui fait qu'on ne prie pas comme on devrait puis qu'on ne répand pas nos âmes dans la prière? C'est l'indifférence. Regardez la vie de gens qui se sont mis à prier. Tu sais, on dit, ah, wow, Georges Muller, il y a des grands, des orphelinats, parce qu'il y avait un cœur brisé pour ces orphelins à Bristol, que personne ne s'occupait, puis Dieu a mis dans son cœur, il y avait une compassion pour eux, ils ressentaient leur misère, puis il les a présentés à Dieu, puis c'est du coin, il leur a aussi présenté Dieu, puis ça a fait toute une différence. Donc, l'indifférence, un grand obstacle spirituel quand vient le temps de la prière, parce qu'on peut dire ben des prières, mais avec Dieu, c'est quoi? Des fois, on peut dire deux, trois mots, mais quand c'est d'un cœur contrit et brisé, puis de compassion pour les autres, ça vaut deux heures de prière avec un cœur éloigné. Le deuxième obstacle spirituel, c'est la peur. Pourquoi on ne parle pas à Jésus, à des personnes qu'on voit, puis on sent, vous savez, si vous avez le Saint-Esprit, Saint-Esprit dit quelque chose, ou prononce le nom de Jésus, donne-lui un traité, quelque chose. Pourquoi qu'on ne le fait pas? La peur. On a peur. Deux obstacles spirituels qui sont conquis comment? Par la foi. Vous savez, on peut demander, Jésus, avec l'autorité que tu as sur le monde des ténèbres, sur ma vie, toi qui es sur le trône et je suis assis en toi, assujettis cette indifférence, brise-la, qu'elle soit amenée captive à l'obéissance de Christ, puis à la place, donne-moi un cœur de compassion, de miséricorde pour les gens autour de moi, puis que ma vie de prière soit qu'elle sorte du moule de juste dire des mots, mais brise mon cœur pour les perdus dans la prière. Même chose avec la peur, que cet obstacle qui m'empêche d'ouvrir parce qu'ils vont dire non, que c'est que la force du Saint-Esprit soit plus grande et que ça m'amène à surmonter ces obstacles. Et ses amis du démoniaque ici, du muet démoniaque, ont surmonté ces deux grands obstacles. Ils n'étaient pas indifférents pour leur ami. Puis tant qu'ils avaient peur que les gens m'ont dit, parce que c'était pas quelqu'un de populaire, là. Il n'allait pas pour le big shot, puis tout le monde allait les applaudir. Il a dit, qu'est-ce que tu fais avec un muet de même, démoniaque? Ils ont surmonté ces obstacles-là, puis ont fait la différence dans sa vie. Le gars n'était pas capable par lui-même, mais eux qui se souciaient de lui ont fait une différence dans sa vie à lui. Wow! J'en reviens là-dessus pas mal, mais ça m'a marqué. Mais le message de dimanche passé, je ne l'avais pas encore écouté. Il est disponible. Puis vous me le demanderez, justement, M. Reason, il me l'a partagé. Puis je pense que c'est sur YouTube, le lien YouTube. Si vous voulez écouter le message de dimanche passé à Grace Community par MacArthur, en tout cas, là, j'y réfère, 26 juillet. Juste le titre, ça capture, c'est peut-être pas le bon mot, là. Ça capture la réalité, dans le fond, dans laquelle on est. Il dit, c'est pas un temps pour avoir peur pour l'Église, mais un temps de triomphe pour l'Église. Bon, ça, c'est le genre de titre que j'ai goût d'écouter le message, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire, puis je pense que c'est biblique. Ça, c'est la foi qui conquérit les obstacles, qui fait bouger les montagnes. Et donc, si par la foi on brise les liens, les forteresses de l'indifférence spirituelle qui nous empêche de prier puis d'intercéder, d'avoir la compassion dans la prière, si par la même foi Dieu brise la peur qui nous fige pour être le sel de la terre, la lumière du monde, mais amis, qu'est-ce que Dieu va pouvoir faire? Bon, il faut en faire des choses extraordinaires. C'est ça qu'il faut qu'on voit. Dieu veut les faire. Puis Dieu se soucie de ce monde. C'est notre foi qu'il faut qu'il fasse confiance que Dieu est capable de le faire. Il faut y faire confiance. C'est pour ça qu'on se réunit dans l'Église, mes amis. On a besoin de ça. Il faut qu'on s'encourage. Il faut qu'on se dise, hey, on est ensemble là-dedans. Puis moi, je suis partant. OK, ben moi aussi. Puis c'est ça l'idée. On s'encourage à l'amour puis aux bonnes œuvres. On s'encourage dans notre foi. Puis oui, dans les messages, mais aussi dans la prière. Puis mes amis, que Dieu vraiment nous saisisse avec ces choses. Et je pense vraiment que Jésus veut faire des choses extraordinaires dans ces derniers temps. Puis si on va en être les instruments dans ses mains, les bénéficiaires, faut s'attaquer à cet obstacle spirituel de l'indifférence et de la peur. Et se rappeler que nos ennemis, c'est pas le gouvernement, les mesures qu'ils nous donnent ou les opinions qu'on peut avoir, mais c'est les forces spirituelles dans les lieux célestes puis qui agissent dans nos cœurs qui bloquent ça. Puis c'est là que c'est le temps de se tenir. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, parce que c'est le temps, on est dans le mauvais jour, puis c'est le temps de se tenir en Jésus-Christ pour qu'on puisse triompher de ces choses par lui. C'est le temps de se revêtir de toutes les armures de Dieu. C'est le temps de revêtir l'âme all-encompassing, l'âme englobante de la prière. Si vous regardez toutes les, la justice, la parole, puis ça, toutes ces choses-là, c'est par la prière. La prière, c'est ce qui nous donne l'efficacité dans la guerre spirituelle. Il y a 6 armes qui sont données là, avec l'armure. Le 7e, c'est la prière. Ça fait toute la différence. Je termine avec quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais à 3 reprises, on voit Jésus toucher. Okay? Je ne l'ai pas souligné quand on l'a lu, mais remarquez la puissance du toucher. Verset 21, avec la femme, elle disait, qui disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement. Elle l'a touché, elle a été guérie à l'instant. Verset 25. Quand la foule lui était envoyée, il entra, prit la main de la jeune fille. Encore là, c'est le toucher. Avec les aveugles, verset 29. Alors il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Quand je vois ça, ça me fait penser. Moi, j'ai juste Kevin qui connaît ce cantique-là. Mais connaissez-vous le. Puis je vois pas, en tout cas, peut-être que je peux essayer de vous chanter un petit peu, mais. C'est un cantique en anglais, ça dit « How can we reach a world we never touch? » Connais-tu ce cantique-là? « How can we reach a world we never touch? » C'est vraiment beau, puis l'idée, dans le fond, c'est t'as beau aller parler des belles paroles, mais l'idée, est-ce que tu soucies des gens? Le toucher, l'idée de le contact humain. Savez-vous qu'on... L'Évangile, c'est pas juste des belles théories, puis des... L'Évangile, c'est montrer aux gens qu'on se soucie d'eux. Puis ça ne veut pas dire que si tu le touches de façon magique, il va être sauvé, là. Mais l'idée, c'est « reaching out ». C'est aller auprès de... sortir de la zone de confort, puis aller le toucher. Puis c'est drôle, hein? Satan attaque ça en ce moment spécialement. Plus le droit de se toucher, plus le droit d'être proche. Savez-vous, ça fait partie de la fabrique de nos relations humaines. Il y a une fois, j'ai appris cette leçon-là, mes amis, d'une façon assez humiliante. Retournons au jardin mobile. Tu sais, quand tu travailles avec des gens 50 heures par semaine, là, tu partages des choses de la vie. Là. Puis encore une situation, ça arrivait souvent que les occasions témoignées quand il y a des gens qui meurent, des accidents d'auto, puis ça. Puis, il y a un gars, justement, qu'un ami avait eu un accident. Je me rappelle, je ne sais pas si elle était morte, mais en tout cas, mais il trouvait ça dur, puis... Là, il partage ça. Puis moi, je suis là, le chrétien théorique. Il me partage ça. Puis j'ai dit toutes les bonnes affaires, tout parfait, puis tout ça. Mon ami, l'autre à côté, qui n'est pas chrétien, il m'a donné une méchante leçon d'humilité. Lui, il dit pas un mot. Il va le voir, puis il fait une grosse colle de même. Puis les deux pleuraient les bras les uns dans les autres. Sais-tu quoi? Son sermon a valu pas mal plus, était pas mal plus puissant que le mien avec mes paroles. Tout correct. Mais... L'autre, il l'a touché. L'autre, il est allé auprès de lui. Puis son geste, ça voulait dire, je me soucie de toi. Je pense que ce gars n'avait pas besoin de paroles, comme j'y ai dit, puis tout ça. Il avait besoin du réconfort. Je m'en rappelle encore à ce jour, parce que je me dis, mon ami, j'ai passé à côté de l'essentiel. Puis ça m'a servi de leçon, parce que je m'en rappelle encore. Puis je dis pas, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour, ça dit, hein, les embrassements, pour s'éloigner des embrassements, mais ce temps-là, ça en était un. Ce que je veux dire avec ça, il y a tellement de gens isolés, seuls, désespérés. En ce moment-là, c'est comme ça l'a fait fois 10, là, en l'espace de quelques mois, là. Historiquement, c'est l'Église qui a été toujours vers ces gens-là, savez-vous? Mais non, c'est le gouvernement maintenant qui fait tout ça. Mais c'est notre rôle. C'est notre rôle d'aller puis de toucher le monde de ces gens-là. Vous voyez pas juste le toucher physique, là. Puis en passant, je pense que c'est bon, là. C'est bon de faire une colle, puis... Hey, on a besoin de ça, là. Hey, frère, ou... je suis content de te voir, puis... Satan s'attaque à ça. La fabrique de nos relations humaines même. C'est une attaque spirituelle sans précédent à ce qui fait la fabrique même de nos relations. Vous aimez qu'on ait la foi de surmonter ces obstacles-là. Avec le message de l'Évangile, la puissance du Saint-Esprit. L'Église n'a jamais été aussi importante dans l'histoire de nos petites vies courtes. Là. Les plus vieux ici sont fin cinquantaine. Dans notre vie, là, puis depuis qu'on est dans l'Église Jésus-Christ, là, il n'y a jamais eu un temps où est-ce que le monde avait autant besoin de l'Église. C'est nous, ça. Dieu, là, c'est à nous en ce moment qui regarde et qui dit « Faites-moi confiance. Allez toucher le monde avec mon message, avec mes paroles, avec mon réconfort. » C'est à nous de le faire. On est son corps. Dieu touche avec son corps. Il réconforte, il parle, il écoute. On est le corps de Christ dans le monde. Comment on va atteindre un monde qu'on ne touche jamais? C'est bon, on peut s'envoyer des emails. Moi, j'ai témoigné mon oncle Jean-Guy, j'ai envoyé une lettre pour lui dire « Considère Jésus, son œuvre parfaite et tout ça. » Mais c'est limité. Il faut qu'on aille auprès des gens. Savez-vous que c'est révélateur? Quelque chose qui m'a frappé. Savez-vous ce que l'amnistie internationale, vous savez c'est quoi l'amnistie internationale? Les prisonniers politiques et tout ça, bon, les gens maltraités dans le monde parce qu'ils ont des divergences politiques ou, okay, ou religieuses. Pis. Fait qu'Amnistie internationale, c'est un organisme pour, en tout cas, les protéger. Je ne connais pas tant que ça, je ne dis pas que j'endosse Amnistie internationale, mais ils ont écrit un livre pour que les gens puissent reconnaître c'est quoi la violence psychologique. OK? Puis voici quand, puis ils mettent 8 éléments, là. OK, voici comment, quand la violence psychologique, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Puis dans le contexte, eux autres, c'est dans la torture. Parce que, vous savez que les gens qui torturent, c'est pas juste de donner des coups. Ils les rendent misérables, ils les font traiter comme des moins que rien, puis c'est comme si la personne, tu sais, il la casse, il casse son esprit. Vous savez, j'ai parlé de ça avec Josephson, il y a sûrement eu, je sais que Wim Brandt a été battu, là. Je sais pas si Josephson a été battu autant que ça. Il a été battu, mais... Ce qu'il nous raconte, puis qu'il a trouvé tellement dur, ces gens-là voulaient casser son esprit. Et ça, c'est de la violence psychologique. Savez-vous c'est quoi qui est en haut de la liste? Puis savez-vous qu'est-ce qu'on voit quand il y a une secte qui prend quelqu'un puis qui l'embarque dans ses filets? La première chose, c'est l'isolement. La première, l'isolement. Puis qu'est-ce que Satan essaye de faire? Il fait avec la société, puis il voudrait comme Église qu'on soit tous chacun de notre bord. Qu'on soit isolé. L'Église de Jésus-Christ, elle nous dit on est un seul corps, on est un. La force, c'est dans l'unité du Saint-Esprit. Puis vous l'avez dit souvent, c'est pas nous qui avons créé cette unité-là, vous dire OK, on va essayer d'être unis. Non, c'est l'unité de l'Esprit. Elle est déjà là. Le Saint-Esprit n'a aucune contradiction en lui-même. Là. Fait qu'on rentre dans cette unité-là. Et c'est ça la force. C'est pour ça qu'on a tant besoin d'une Église. Puis comme je disais, que quand on vient à l'Église, ça fait. Ah, ça m'encourage, ça me fortifie. On a besoin de ça plus que jamais, de se tenir les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. Pourquoi? Parce que Satan voudrait nous disperser à tous les vents, puis qu'on soit chacun dans notre coin, parce qu'on perd toute notre efficacité. Puis les gens à qui Dieu nous appelle, c'est pour aller leur donner justement ça. Puis vous rappelez-vous, mercredi, ce qu'on a vu? On a vu 3 besoins fondamentaux qu'on a en Jésus-Christ. On a de l'importance... On a une sécurité, puis on a, j'en oublie un, puis importance, c'est pas comme moi je suis important, mais Dieu nous trouve, on a de la valeur aux yeux de Dieu. En lui, on est sécure, puis, attends, je l'ai ici, je vais vous dire l'autre. Je suis accepté. Savez-vous que c'est les 3 besoins fondamentaux de tout être humain, de savoir qu'on est accepté, qu'il y a des gens qui nous aiment, de savoir que je ne suis pas un moins que rien, que j'ai de la valeur aux yeux de quelqu'un, puis de savoir que je suis en sécurité, qu'il n'y a pas de mal qui va m'arriver. Savez-vous qu'on trouve ça parfaitement en Dieu, en Jésus-Christ, mais l'Église de Jésus-Christ, c'est son corps, c'est l'extension de ça. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui viennent à l'Église juste pour trouver ça, puis ils ne trouvent pas nécessairement Jésus-Christ. Des fois, c'est malheureux, mais l'idée, par exemple, en Jésus-Christ, on l'a, puis en Église aussi, on s'encourage là-dedans. Hein, on s'accepte, on est gens différents, d'arrière-plan différents, même des fois des pays différents, mais on est un en Jésus-Christ. Accepté, on est en sécurité. Pour ça, je veux que ce soit un endroit de sécurité, qu'on ne commence pas à avoir peur. Puis, non, non, on est entre frères et sœurs, puis on est important. Dieu a de la valeur, nous donne de la valeur. Pas parce que, ah, oh, moi, je m'en donne. Non, Jésus-Christ a versé son sang pour moi. C'est à ce point-là à quel je suis important aux yeux de Dieu. Mes amis, ces choses-là, c'est des valeurs refuges. C'est des vérités réconfortantes. Et donc, dans ces temps de grande confusion, puis de tout, qu'on se ramène à ces vérités-là. Je veux qu'on prie, comme j'ai dit, le dimanche soir, je veux aussi qu'on puisse répondre comme ça, qu'on réponde à Dieu par rapport à ce qu'il peut nous avoir parlé avec ça, et que Dieu fasse son œuvre. On te remercie, Seigneur, que dans le passage qu'on a vu, tu nous pointes à toi-même comme étant celui qui récompense la foi. Celui qui, lorsque on surmonte les obstacles sociaux, religieux, spirituels, on est toujours récompensé. On trouve toujours, tu combles les besoins, tu satisfais l'âme. Tu donnes du bien-être à notre être intérieur. On te remercie, Seigneur, que tu es ce Dieu qui se laisse trouver par ceux qui te cherchent. Mais on est dans une guerre. Satan voudrait attaquer. Ah, il attaque le monde, mais il attaque aussi ton œuvre, ton corps spécialement. Merci pour des églises qui se tiennent. Merci pour des frères et sœurs qui nous encouragent. On peut s'encourager mutuellement. Seigneur, on est faible par contre et on ne veut pas s'appuyer sur notre force et on ne veut pas non plus se mordre les uns les autres. On veut s'encourager, s'édifier, s'encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. Seigneur, on regarde à toi, on invoque ton nom. Oui, comme Israël ce matin, on gémit, Seigneur, au-dedans de nous. On soupire après ta délivrance. Merci que tu nous entends, Seigneur, tu nous aimes. On te loue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever.